finis et s'étendent les grands prés marécages. Pas un seul oiseau ne chante sur ces arbres secs et creux.
Plus de 5 millions de juifs de toute l'Europe ont été exterminés selon un plan organisé par les nazis entre 1933, date d'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne et la libération des camps en 1945. 3 millions d'entre eux sont morts dans les camps d'extermination, 1 million à Auschwitz.
En Pologne, 90% de la population juive, soit 3 millions de personnes, ont été assassinées. En France, 25% de la population de confession juive, soit 75 000 personnes dont 11 000 enfants, et cela avec la participation active du régime de Vichy. Auschwitz-Birkenau tient une place centrale dans le dispositif de la solution finale organisée par les nazis à la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. 11 millions de juifs d'Europe doivent être exterminés.
1 300 000 déportés seront conduits à Auschwitz. 900 000 ne seront jamais enregistrés et conduits directement dans les chambres à gaz. Sur les 400 000 enregistrés au camp et détenus, la moitié d'entre eux mourront avant la libération. L'énumération des chiffres fait frémir. Cependant, elle ne peut suffire. Elle informe sur l'ampleur de la Shoah mais n'explique pas. Or, il nous apparaît capital d'apporter deux autres regards.
D'abord, celui qui analyse les causes, les circonstances, les volontés politiques, les immondes théories racistes et antisémites à la base de cette extermination, idéologiquement, politiquement, industriellement planifiée. Ensuite, celui qui cherche à mettre un visage, une identité, une vie, une histoire sur chacune des victimes, hommes, femmes, enfants.
C'est avec ce regard-là que nous avons choisi de vous proposer sur Fréquence Sillée une nouvelle série d'émissions sur la Shoah. On y parlera des enfants, de l'expression par le roman, le cinéma et de l'entreprise de déshumanisation. Nous sommes lycéens de première L et terminale L au lycée Paul Scarron.
Aujourd'hui, la déshumanisation. Le système concentrationnaire et le génocide ont mis à mal l'idée même d'humanité. Négation de l'individu comme être autonome, négation de la mort comme mort humaine, humiliation systématique.
Lors de notre voyage d'études à Auschwitz, nous avons cherché à relever sur place tout ce qui, au-delà de la mort ou de la survie, dans les conditions atroces, témoignait de la volonté des nazis d'ôter tout statut d'humanité et de dignité à leurs victimes. Mensonges, cynisme, humiliation, violence, torture physique et morale, réduction des individus au statut de numéro, d'objet, d'animal, de cobaye, de cendre non identifiable.
Avec le témoignage de Ginette Kolinka, rescapée du camp, nous avons pu aller au-delà de nos propres sentiments. Avec notre professeur de philosophie, nous avons essayé de mieux comprendre la déshumanisation. En 1942, elle avait notre âge, Ginette Kolinka.
Il y a 67 ans, j'arrivais à Nancy, parce que j'avais été arrêtée le 13 mars 1944 à Avignon. J'avais été arrêtée parce qu'on avait été dénoncée comme juif avec... Et ce jour-là, j'arrivais à la maison, il y a mon père, mon petit frère, mon neveu et la Gestapo. Et donc, on est dénoncé comme juif, ils nous embarquent à la prison d'Avignon. On y est resté 48 heures et après, on était à la prison des Baumettes, où on est resté jusqu'au 30 mars. Au 30 mars, on nous prévient qu'il faut partir pour aller à Paris. On savait qu'on allait à Drancy, que Drancy c'était l'avant-départ pour le camp de travail. On ne savait pas où, mais enfin, on savait qu'on allait dans les camps de travail. Donc, le 31 mars, ou le 1er avril, on arrive à Drancy. À Drancy, on y reste jusqu'au 13 avril. Le 12 avril, on nous prévient que c'est le départ le lendemain pour Pitchipol. Pitchipol, c'était un nom qui était né comme ça dans l'esprit de quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, mais on savait que c'était le départ. Hein. On ne savait pas si c'était dans l'Est ou dans l'Ouest, il paraît qu'il y en a qui savaient, mais nous on ne savait pas. Et on est embarqué le 13 avril au matin, on nous embarque à la gare de Bobigny, où là les wagons nous attendent, et on est arrivé à à Birkenau. Alors, on est d'abord à Drancy, on y reste une quinzaine de jours, et 13 jours exactement. Et le 13 avril, on part de Drancy pour arriver ici le 16 avril 1944.
Avant 1943, les détenus arrivaient dans un endroit qui s'appelait la Judenrampe. Les nazis leur promettaient une douche, un repas. Et donc, ils vont pour se doucher, pour manger. Et ils arrivent dans un endroit sans lumière, sans eau. Et ils prennent conscience qu'ils vont être tués et que tout était mensonge.
Bah aussi, au moment de la sélection, les trains étaient entourés de soldats parce qu'il faut bien dire que les juifs étaient transportés dans des wagons à bestiaux. Et quand on imagine qu'ils étaient des centaines par wagon, les conditions dans les wagons étaient vraiment atroces. Donc quand ils arrivaient sur le quai, les SS faisaient former deux colonnes, donc les femmes et les enfants et d'un autre côté les hommes. Donc les femmes et les enfants allaient la plupart du temps directement aux chambres, alors que les hommes étaient sélectionnés par un médecin, donc en fonction de leur âge, de leur capacité physique. Ils faisaient encore deux colonnes d'hommes. Et il y avait une colonne qui partait aux chambres à gaz aussi. Ils posaient les bagages sur le quai et d'autres détenus ramassaient les bagages et les emmenaient dans le département du Canada. Les détenus qui ramassaient les bagages avaient ordre de ne pas prévenir du tout les nouveaux arrivants. Il ne fallait surtout pas en parler de ce qui se passait. Les SS y mentaient pour éviter la panique. Il y avait 75% des arrivants qui partaient directement aux chambres.
Concernant l'extermination, les salles de déshabillage étaient souterraines. Les personnes se retrouvaient à plus de 2000 sur 210 mètres carrés. Et plus précisément, dans les chambres à gaz, les gens mouraient entre 15 et 20 minutes. Donc c'était une sorte d'agonie pour eux. Ils souffraient réellement lors de leur mort.
Il y avait 1400 corps brûlés par jour. On enlevait les cheveux, les dents, leurs bijoux. Donc il y avait 5 crématoriums dans le camp. Les chambres étaient repeintes après chaque crime pour tromper les détenus.
Et puis, Mathilde le disait, il y avait 1400 morts par jour. Et durant l'été 44, les morts se sont multipliés par deux.
Leur arrivée au camp était déjà basée sur des mensonges qui les menaient à la mort. On leur disait qu'on allait leur donner à boire et à manger et qu'avant, il fallait qu'ils aillent se laver alors qu'ils filaient directement aux chambres à gaz. Le fait qu'ils soient traités comme des animaux, c'est qu'ils étaient gazés avec du zyklon B, qui était un insecticide très puissant. Qui dit insecticide, dit tuer les insectes. Les insectes sont des parasites. Les hommes étaient considérés comme des parasites. On a vu les chaussures.
Bah, ce qui témoigne le plus de la déshumanisation, c'est quand même tout ce qui fait partie du corps humain, enfin les cheveux, les dents. Puis après, ils ont continué par les vêtements qui font partie aussi de ça, parce que la nudité, ça atteint à la personne et c'est une sorte de déshumanisation. Donc on voit bien l'humanité qu'il y avait derrière chaque individu par le nombre d'objets qui ont été récoltés et entassés dans les pièces qu'on a vues à Auschwitz 1, notamment les prothèses. Puis concernant les dents, les cheveux...
Les êtres humains étaient considérés comme des objets, parce qu'on leur enlevait toute part d'identité, tout ce qui faisait d'eux une personne à part entière.
Avec tous les objets qu'il y a dans Auschwitz 1, et on se rend compte du nombre de personnes qui ont été battues.
Parce qu'il y a beaucoup de chaussures, que ce soit d'adultes ou d'enfants, le nombre de valises, les casseroles, parce que les gens pensaient venir vivre en Pologne. Les SS, ils détruisaient toutes les photos, et qui dit destruction de photos dit destruction de vie, parce qu'il n'y a plus aucun souvenir, il n'y a plus rien.
L'humanité et la dignité étaient atteintes. On noyait les cendres humaines donc après que les gens soient brûlés.
Il y avait aussi les fosses communes où on mettait plus de 100 000 corps. Donc il n'y avait aucune sépulture, donc dans ce sens, l'atteinte à l'humanité. Des crémations aériennes, c'est quand même atteinte à la dignité, à l'humanité aussi.
Enfin, il n'y a pas de sépulture, il n'y a rien. Juste on les brûle comme si c'était des animaux ou pas des êtres.
Le Sonderkommando de commando, donc l'équipe spéciale, ceux qui vidaient les chambres à gaz et tout, ils étaient éliminés régulièrement car c'était les seuls témoins oculaires du crime. Donc en général, ils faisaient pas plus de 2 mois.
Thank you.
Il y avait trois sortes de camps. Il y avait le camp des femmes, le camp des hommes et des camps familiaux. C'était juste pour faire de la propagande, pour montrer aux déportés qui arrivaient qu'ils pourraient rester en famille, qu'ils pourraient garder leurs enfants et tout ça, alors qu'en fait, ils allaient être séparés et voir qu'ils allaient mourir directement. Ceux qui étaient retenus pour rester dans le camp, ça commençait par l'humiliation. Il fallait que tout le monde se mette nu dans la même pièce. Ça, c'était vraiment une atteinte à la pudeur. Donc, il y avait les hommes et les femmes ensemble, en compagnie des SS. Il fallait que les gens rédigent une fiche personnelle en parlant de tout sur eux. C'est vraiment une atteinte à l'être humain. On coupait tous les poils du corps pour pas développer de maladies ou des choses comme ça. On désinfectait les corps encore parce qu'on les traitait de parasites. On les matriculait, ils avaient plus de nom. Donc s'il y a plus de nom, il y a plus d'humanité. Il y avait des médecins qui fouillaient dans les organes des détenus pour voir s'ils avaient pas caché des objets.
Il y avait aussi dans les camps des baraques pour 700 personnes et il y avait plus de 1000 personnes qui étaient entassées dedans. Ils dormaient sur du bois, entassés. Ils vivaient dans la boue et donc c'était une extermination mais sur longue durée.
Il n'y avait aucune hygiène parce qu'il n'y avait aucun accès au lavabo. Donc on sait très bien que pour être humain, il faut quand même être un minimum, pas propre mais bien en nous.
Concernant l'hygiène, on peut voir que pendant plus de 15 mois, les gens ont été privés de miroirs, ont été privés de douches et n'avaient presque aucune hygiène. Les planches où ils dormaient, donc les chambres, leurs chambres étaient sales et pleines de microbes. Les maladies se multipliaient au fur et à mesure du temps. Concernant les toilettes, les gens étaient réunis dans une même pièce, tous en même temps. Ils avaient 10 minutes par jour pour faire leurs besoins.
Et au début, c'était des grands trous pour faire leurs besoins. Et il y en a qui tombaient dedans et qui mouraient. Concernant l'alimentation qu'ils avaient, ils buvaient par jour 1 demi-litre de café, 1 litre de soupe, 300 grammes de pain noir, 20 grammes de marmelade. Donc environ 1300 calories, alors qu'avec le travail qu'ils faisaient, ils avaient au moins besoin de 1700 à 2200 calories. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient vraiment du mal physiquement à tenir.
Donc le matin, ils avaient 1 demi-litre de café ou de thé. Et le midi, ils avaient 1 litre de soupe avec des légumes pourris. Dans Auschwitz 1, au début, lors des sélections, les Allemands ils sélectionnaient par exemple les musiciens ou des choses comme ça. Et quand les déportés ils revenaient du travail le soir, il y avait un orchestre qui jouait de la musique et il fallait qu'ils marchent en cadence avec la musique, mais c'était un peu en plus c'était pas de la musique triste, c'était de la musique assez rythmée, comme si tout se passait bien, qu'ils travaillaient normalement.
Quand on arrive au camp Auschwitz 1, on peut voir que c'est écrit Arbeit macht frei, qui veut dire le travail rend libre. On peut prendre ça un peu comme ironique parce que les déportés, au niveau du travail, c'était plus comme des esclaves.
Et ils étaient enfermés tout le temps. Il y avait du barbelé, tout était électrifié, il y avait des miradors partout, ils étaient surveillés tout le temps. Madame Ginette nous a parlé d'une expérience dont on lui a parlé aussi. C'était deux enfants. Donc un garçon et une fille qu'on a cousu ensemble au niveau des bras, des jambes et du thorax. Et donc elle nous expliquait que leurs cicatrices s'infectaient, qu'il y avait du pus partout. Et ils étaient cousus vraiment ensemble comme des siamois, sauf que c'était pas du tout naturel. Et donc ça s'infectait, ça développait des maladies.
Moi je pense qu'ils ont profité... Ils ont profité qu'ils soient nombreux pour pouvoir faire passer ces expériences. Il y a aussi eu des expériences sur leur génome pour pouvoir par la suite faire une race bien spécifique et par la suite pour que la population soit toute comme ils le veulent et pouvoir créer des enfants comme ils le désirent et faire d'eux ce qu'ils veulent.
Les déportés étaient traités comme des cobayes, comme des animaux.
Alors le 16 avril, je suis ici. C'est l'enfer qui commence. Mais qui commence, on ne sait pas encore si. Alors la déshumanisation, c'est affreux, c'est de se retrouver nu. C'est affreux. On est à notre époque, on était très 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 pudique. et se retrouver nu, je crois pour moi ça a été la pire des choses. Ça m'a même pas, j'ai même pas senti l'effet de la, du tatouage, est-ce que ça faisait mal, ça faisait pas mal. J'étais nue, j'avais honte, j'avais que deux mains, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cache, le sexe, les seins, je suis malheureuse comme tout, donc je sens même pas quand on me tatoue si ça fait mal ou pas mal. Je me retrouve, on nous emmène dans une autre salle, on vous enlève vos cheveux, on vous enlève les poils du corps, c'est encore très 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 humiliant. Vous êtes devant, même si vous êtes devant les femmes, elles ne prennent aucune précaution pour nous isoler, qu'on soit non devant tout le monde, on vous fait ça. Après, on a le droit à la douche, là on est contente, on dit tiens, la douche ça c'est chouette, on va y en faire être propre. Non, je t'en fiche, la douche, c'est à peine quelques gouttes d'eau qui vous tombent du ciel, parce que c'était là-haut. On est deux, trois, quatre sous une pomme de douche. L'eau coule un coup froid, un coup chaud. Celui ou celle qui faisait manœuvrer l'eau va s'amuser avec nous. L'eau, le savon où il est, ben, il n'y en a pas. Après, à peine mouillé, on nous enlève de la douche. Il faut laisser la place aux autres. Et on nous emmène dans une salle où là, alors, en plein courant d'air, parce que toutes les vitres sont cassées, on est encore nus. Déjà, on commence à être un peu plus habitué à la nudité. On commence à s'y faire. Et là, alors, on attend les serviettes pour s'essuyer. Ben, on peut toujours les attendre. On n'en a jamais eu pendant 15 mois. Et là, alors, une fois que tout le monde est passé au rasage, à la douche, là, on va vous mettre des habits. Alors, ce qui m'énervait au début, c'est que tout le monde nous parlait des vêtements rayés pour les femmes. Mais nous, en tant que juives, c'était du luxe pour nous. On n'y avait pas droit, c'était trop beau pour nous. Les juifs, pour les nazis, on était de la vermine. On représentait absolument rien du tout. On n'était pas des êtres humains. Alors, nous déshumaniser, mais ça a été très facile. La nudité, les cheveux, les poils du corps, nous mettre des vêtements ridicules où vous aviez... Elle ne s'occupait pas si vous étiez grosse, mince et tout. Elle vous donnait des affaires, puis il ne fallait pas dire « Mais non, ce n'est pas ma taille, donnez-moi une taille en plus, une taille en moins. » Non, non, entre nous, oui, il fallait. Mais je vous dis qu'à ce moment-là même, on a un peu ri parce qu'on était tellement ridicule que ça, je crois que ça, d'abord de rire un petit peu, ça nous a un peu peut-être fait du bien. Mais en plus, c'est vrai, on était tellement ridicule. La mode était, les femmes avaient des cheveux très, très en hauteur. Et d'un seul coup, vous lui retrouvez des crânes rasés. Maintenant, on est habitué, malheureusement, vous avez les pauvres femmes qui ont eu des cancers. On les voit les crânes rasés. Mais à notre époque, ce n'était pas le cas. Maintenant, il y a même eu des jeunes femmes qui... C'était la mode, les poumons qui se rasaient. Donc, on ne serait pas choqués maintenant avec les... Tandis qu'à notre époque, si, alors de nous voir comme ça. Mais moi, dans mon transport, pourquoi, j'en sais rien, on n'a pas eu automatiquement les cheveux rasés. Hein. Moi, j'ai eu les cheveux coupés très courts. C'était pas joli d'ailleurs, parce que moi je me voyais pas, mais je voyais les autres. Hein. Parce que nous, on s'est jamais vu dans une glace. Pendant 15 mois, moi j'ai jamais vu, je me suis vue quand je suis rentrée chez moi. Donc après, ben, j'ai été ici, on est en quarantaine. En quarantaine, il n'y a pas de travail, mais il faut faire des corvées qui sont ridicules, mais il faut les faire. Et si vous ne les faites pas bien, vous avez le baptême des coups. Et la première fois que j'étais avec une amie, on était bêtement, il fallait transporter des pierres d'un coin pour les mettre dans l'autre. On a quitté le bloc en quarantaine pour après aller en bloc la gare B, c'était le bloc de travail alors, où on avait les commandos. Et là, quand on avait un commando, ben, on le gardait en principe tout le temps. Hein. C'est rare quand on vous changeait, mais c'est déjà peut-être arrivé, mais c'était très rare. Et il y a des commandos qui étaient plus ou moins intéressants, mais malheureusement le mien, enfin tous intéressants, c'est une façon de parler, plus ou moins, je parle intéressant parce que vous pouviez organiser de la nourriture, mais malheureusement le mien... J'étais dans les trois quarts des gens, on travaillait tous pour faire les routes, des travaux de terrassement, les creuser des fossés, monter les rails jusqu'au four crématoire que vous avez vu à Birkenau, puisque avant on s'arrêtait en dehors du camp. J'ai fait des routes, enfin tout ce qui était travaux comme les hommes devraient faire normalement et que les femmes faisaient.
pouvez-vous nous décrire en termes philosophiques la déshumanisation ?
Alors, en termes philosophiques, je ne sais pas, mais je peux essayer du moins. Donc, il me semble qu'on peut caractériser la déshumanisation par la négation de la culture et la négation des possibilités strictement humaines. Par exemple, on voit bien à Auschwitz qu'il y a une négation de la culture au sens où il y a la négation de tout ce que les hommes ont créé d'artificiel pour satisfaire leurs besoins. Enfin, on leur nie la possibilité de se conduire comme des humains et on leur nie la possibilité de faire des choix, de s'exprimer de manière rationnelle. Donc à la fois par la négation du prénom, par la négation de tous les choix qu'il y a à faire dans la vie ordinaire et surtout par la manière dont on les traite dans la manière dont ils pourraient dormir, dans la manière dont ils pourraient satisfaire les besoins les plus élémentaires. Il y a une négation de l'homme dans cette négation de la façon dont les humains traitent à proprement parler leurs besoins. Et bon, sans compter du fait que c'est un lieu dans lequel il n'y a pas la place pour des désirs non plus. Donc négation de la culture, négation des possibilités proprement humaines que sont le désir, le choix, la délibération rationnelle. Et du même coup, un sort qui est même pas comme les animaux, parce que les animaux peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils font. Mais négation de cette possibilité qu'a l'homme d'inventer sans cesse sa propre vie.
La déshumanisation était-elle pour les nazis un moyen ou une finalité ?
Il semble que ce soit une finalité, puisque si c'était qu'un moyen, il y a bien des aspects de la déshumanisation qui ne seraient pas nécessaires. Par exemple, quand on voit sur les murs des baraquements des injures ou des insultes, enfin qui sont là pour que l'homme qui souffre se rappelle qu'il souffre, hein, et que quand on dit il faut être propre à quelqu'un qui n'a pas les moyens de l'être, il s'agit bien de le toucher dans son être, de lui rappeler que il ne peut plus être ce qu'il a été auparavant. Donc il y a toutes les procédures d'humiliation semblent montrer que c'est bien une finalité et pas simplement un moyen. Parce que si ça avait été un moyen, il n'y aurait pas eu de nécessité d'aller aussi loin en fait. On est au-delà de la rationalité de la rationalité économique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui nient l'existence des camps d'extermination, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de là qui choque la raison humaine, parce qu'on voit bien que c'est pas qu'un moyen au service d'une fin en fait. La finalité même, c'est de nier à certaines personnes la qualité d'humain. Et vous le voyez bien dans le fait que on les enterre pas, on perd leur nom, on perd leurs traces. Donc c'est pour ça que c'est important justement qu'un endroit comme le mur des noms est si décisif, parce qu'il remet dans l'humanité ce qu'on a voulu symboliquement en faire sortir. Ce sont que des symboles, mais donc c'est bien une question de finalité.
En quoi l'absence de sépulture était-elle partie prenante de l'entreprise de déshumanisation ?
Ben c'est simple, il y a que les humains qui enterrent leurs morts. Enfin bon, c'est peut-être un peu rapide, mais ça va plus vite en le disant comme ça. Donc et puis c'est pas simplement ici qu'on leur nie une sépulture, mais il n'y a même pas d'endroit où le nom du mort aurait été gardé. Donc symboliquement, c'est comme si ces hommes étaient passés sur Terre sans jamais y avoir été. Alors que les hommes, c'est la culture, c'est-à-dire c'est la mémoire, c'est la transmission, c'est la mémoire de ceux qui ont été là avant nous. Et la sépulture, c'est aussi ce rôle-là. Hein. La sépulture, elle permet de donner une place aux morts parmi les vivants, même si c'est une place à part, symboliquement, elle est toujours présente. Et donc, nier une sépulture, c'est aussi nier une forme d'existence qui est l'existence proprement humaine. C'est pour ça que ça a cet aspect bouleversant, en fait, de découvrir que la mare aux cendres, après tout, vous y êtes allé. Si on passe à côté, on ne peut pas savoir ce qui s'y est joué. Donc, c'est... Voilà, je réponds à ça.
Comment on se remet de la déshumanisation après être sorti du camp ?
Ça dépend des caractères. Moi, je sais que j'ai eu la chance de retrouver ma famille. Et ça fait beaucoup. Ensuite, j'ai changé de camp. En novembre, j'ai quitté Birkenau pour aller à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, les premiers jours ont été très durs. Il n'y avait pas de discipline. Seulement après, on ne travaillait plus. Donc, on était tous ensemble, en francophone, tant qu'à faire. Et on était groupés. Donc, celle qui s'occupait de nous, c'était une chef de bloc. Et elle nous faisait raconter des lectures. J'ai quitté à Bergen-Belsen. Alors là, c'était, il n'y avait pas de travail. Donc, on discutait entre nous, on papotait. Moi, surtout, j'écoutais. Hein, je ne parlais pas trop. J'étais très, très timide. Et donc, cette chef de bloc demandait aux gens, racontez un livre qui vous souvenez d'un livre, une pièce de théâtre. Et là, il y a eu un peu de sentiments qui sont revenus, un peu d'humanité. On devenait un petit peu des gens civilisés. Puis, on a eu la chance, après, d'aller travailler en usine. Et là, on s'est retrouvés avec des francophones. Et quand on allait, par exemple, il y avait une alerte, on avait le droit d'aller se cacher avec eux dans les caves. Et là, alors, ils nous donnaient des nouvelles. Et après, on est resté un mois à peu près dans cette usine à Ragoun, près de Leipzig. Et après, alors, c'était les Anglais qui arrivaient. Et on a été en train, donc c'est déjà pas mal. Vers quelle direction, pourquoi, j'en sais rien. Enfin, on s'est retrouvés en Tchécoslovaquie, à Theresienstadt. Et quand on est arrivé dans le camp de Theresienstadt, il venait juste d'être libéré par les Russes. Donc, on a été accueillis par la Croix-Rouge tchèque, qui nous a reçus tellement d'une façon humaine. Depuis 15 mois, jamais personne ne nous avait regardés. Et là, on nous regardait gentiment, on nous aidait à marcher. Et enfin, par contre, ce que j'ai appris, c'est que j'avais le typhus. Et on m'a emmené directement à l'hôpital. Et le typhus, c'est une fièvre qui est très très forte. Et on reste un peu dans le coma, si vous voulez. Et en fin de compte, je suis restée tout le temps à Theresienstadt, sans savoir exactement combien de temps, ni ce qu'on m'a fait, mais quand je suis sortie de ma torpeur, j'ai appris qu'il y avait un camion qui rapatriait les Français. Et donc, j'étais avec une amie française aussi dans cette chambre d'hôpital, et on s'est sauvés parce qu'on était encore malade, et on a été, je suppose qu'on est parti comme on était, c'est-à-dire en chemise, en tenue d'hôpital. Et on a pris ce camion qui nous a emmenés. Alors, entre Theresienstadt, qui est en Tchécoslovaquie, à 30 km de Prague, et le port, l'aéroport qui nous emmenait, le rapport de Tilsen qui nous avait en France, on s'est arrêté en route dans un château. Et dans ce château, on nous a donné quelque chose pour nous habiller, je pense, et quelque chose pour mettre sur la tête, parce que du fait du typhus, nous avait rasé parce qu'on était pleine de vermine. Et alors, je me suis retrouvée après à Lyon. Et à Lyon, là, j'ai appris que par quelqu'un qui venait comme ça voir les gens, j'ai appris, elle a reconnu que je faisais partie de la famille Cherkassky, c'était mon nom de jeune fille, et elle m'a appris que ma mère et mes sœurs avaient récupéré l'appartement de Paris et que je pouvais aller à Paris. Donc, Lyon, je vais aller à Lyon, où on était arrêté, je vais aller à l'hôpital. Et bien, au lieu d'aller à l'hôpital, je suis rentrée à Paris. Et j'ai retrouvé là ma mère et mes sœurs. Ça s'est bien terminé pour moi, hélas, mais pas pour les autres. Parce que je suis toute seule à être rentrée. Hein. Personne de la famille, ni cousin, ni sœur aînée, ni oncle, ni beau-frère, ni père, ni frère, ni neveu, personne. Je suis toute seule à être rentrée. Mais bon, moi j'ai eu de la chance. Je pense que c'est, y a que la chance. Moi je dis chance, c'est tout. Moi je ne mets pas autre chose.
Et comment on peut résister à l'humiliation
moi
qui
aussi,
cesse
je ne sais pas. Ça a été étudié. Ça a été étudié. Ils n'ont pas fait ça n'importe comment. Ils ont étudié la façon de nous humilier Et c'est ça qui est triste, que des êtres humains se servent de leur intelligence pour amoindrir d'autres personnes.
Habitué à entendre des milliers et des milliers et des millions. Et quand on commence à voir les photos des familles, des enfants, des parents, on se rend compte vraiment du nombre de personnes qui ont été tuées. Et c'est là qu'on se demande si nous-mêmes, on n'est pas déshumanisés dans ce sens-là.
Cette série d'émissions consacrée à la Shoah vous est proposée par le lycée Paul Scarron de Ciel-Guillaume et Fréquence Sillé. Elle est soutenue par le Mémorial de la Shoah, la région des Pays de la Loire, le rectorat de l'Académie de Nantes, dans le cadre du volet Éducation à la tolérance et à la paix du programme d'action éducative régionale.